Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Au tournant des années 1980, l'une des expériences les plus célèbres en primatologie est immortalisée par le cinéaste Barbet Schroeder dans son documentaire « Coco, le gorille qui parle ». Ce film rend compte des travaux conduits par l'éthologue Penny Patterson avec la femelle gorille Coco, à laquelle elle apprend la langue des signes. Brouillant la frontière entre humain et non-humain, cette expérience a permis de mettre en lumière d'importantes facultés cognitives chez les grands singes. Science Chrono fait donc retour en 1978 et plonge dans le regard insondable de Coco. Et bonjour Shelly Massy.
Bonjour.
Vous êtes primatologue, maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, Musée de l'Homme. Je suis ravi de vous recevoir pour parler de cette expérience qui a marqué les esprits et l'histoire de la primatologie. Vous, vous dédiez votre vie et vos travaux de recherche aux gorilles dans leur milieu naturel, en Centrafrique et en République du Congo depuis plus de 20 ans. Alors avant qu'on démarre notre discussion autour de cette expérience, autour de Coco, la femelle gorille, et de sa pratique du langage des signes, on va vous faire un petit rappel sur le principe de Science Chrono. Je vous rappelle le principe de ce nouveau rendez-vous scientifique tous les samedis à 16h30 sur France Culture. Comme vous le savez, la recherche scientifique, c'est du temps long et les savoirs scientifiques évoluent constamment. Quoi de mieux alors pour mettre en lumière ce temps long et ses mutations que de voyager dans le temps grâce à des archives sonores qui ouvriront chaque émission et qui nous permettront d'ouvrir une fenêtre sur l'histoire des sciences du passé jusqu'au présent. C'est avec mon invité spécialiste de la question abordée dans l'archive que nous réaliserons ce parcours temporel et je suis ravi, Shelly Massy, de partir sur la piste des gorilles aujourd'hui avec vous. Parlons de cette expérience. En 1978, à l'université de Stanford en Californie, Penny Patterson, une éthologue et psychologue, apprend la langue des signes depuis quelques années à une femelle gorille nommée Coco. Coco est une gorille née en captivité dans un zoo de Los Angeles et elle montre une certaine aptitude à ce mode de communication. Le cinéaste Barbet Schroeder, intrigué par cette expérience, décide d'en faire un film documentaire qui a pour titre « Coco, le gorille qui parle ». Et ce documentaire nous met face quasiment sans aucun commentaire aux grandes questions qui continuent d'habiter l'éthologie aujourd'hui. Comment définir l'intelligence, les émotions et la communication animale? Quel modèle d'expérience construire pour tester ses facultés? Comment, dans ce cadre expérimental, ne pas tomber dans le piège de l'anthropomorphisme? Et enfin, que peut-on dire d'une pensée animale? Nous allons bien sûr nous poser ensemble ces questions, Shelly Massy, mais sans plus attendre, ouvrons ce Science Chrono numéro 2 avec un extrait de Coco, le gorille qui parle. On y entend Penny Patterson, traduite par Oriane Delacroix, expliquer les capacités de Coco à parler en langue des signes.
Coco's progress was marked by a number of innovations on her
part. Les progrès de Coco ont été marqués par un certain nombre d'innovations de sa part. Très tôt dans l'étude, elle a commencé à signer simultanément, ce que les humains font rarement, sauf peut-être dans la poésie ou pour des jeux de mots. Elle pouvait ainsi signer quelque chose comme « boire plus » ou « boisson nourriture ». Elle faisait ça alors que même moi, je dois réfléchir avant de le faire. Elle le fait spontanément et très rapidement. Elle a également fait un certain nombre d'autres choses remarquables. Elle a inventé des noms composés pour des objets. Par exemple, un jour, un ami mangeait un gâteau sucré et lui en a donné le plus gros bout parce qu'il était sec. Pendant une seconde, elle a signé « gâteau caillou ». Puis, lorsqu'elle connaissait les signes de plusieurs bijoux et qu'on lui a montré une bague, elle a appelé ça un bracelet de doigts.
Coco vit dans une sorte de caravane spécialement aménagée pour elle. Penny, elle, vit avec son compagnon en dehors de l'université. Elle n'a pas d'enfant. Elle vient chaque matin au réveil de Coco et chaque soir revient pour son coucher. L'expérience a commencé il y a 5 ans, sans un seul jour de vacances pour Penny. Les travaux de Penny sont inspirés par ceux des Gardner sur le chimpanzé Washoe, avec cependant une différence importante.
Nous utilisons également l'anglais parlé avec Coco. Nous avons l'habitude de signer et de parler simultanément à Coco, et nous pensons qu'elle comprend à peu près autant l'anglais parlé que la langue des signes.
Voilà pour cet extrait de Coco, le gorille qui parle, le documentaire de Barbet Schroeder, Shelly Massy. Qu'est-ce qui vous marque dans cette prise de parole de Penny Patterson autour des travaux conduits sur cette femelle gorille?
Ce qui m'avait marqué quand j'ai vu le documentaire, c'était sûrement le fait qu'elle a pu inventer des mots à partir de ce qu'elle savait. Et donc, par exemple, le bague, elle disait le bracelet du doigt. Ça signifie qu'elle comprend ce qu'elle dit et elle comprend les signes qu'elle utilise. Et donc, c'est quelque chose qui va vraiment vers des caractéristiques d'un langage, un langage plus complexe. Bien évidemment, elle n'utilisait pas la grammaire ou la syntaxe, mais quand même, elle pouvait former des nouveaux mots, que c'est quelque chose qui est à la base d'un langage complexe.
Ça, c'est très impressionnant dans le documentaire, c'est la spontanéité avec laquelle Coco aussi parle le langage des signes. Ça a requis un travail de préparation et finalement d'éducation, d'une certaine façon, par Penny Patterson, assez conséquent. Est-ce que vous pourriez nous décrire le protocole expérimental qu'a mis en place Penny Patterson? Parce que c'était assez spécifique, elle est un peu pionnière dans ce domaine. Elle n'est pas la seule à avoir conduit ce genre d'expérience. Mais décrivez-nous ce travail concret qui se réalisait au quotidien entre cette éthologue et ce gorille.
Oui, c'est effectivement, elle a travaillé dans une période où la primatologie commençait à se développer et c'était un peu, on peut dire, à la mode dans les années 60-70 ce type d'expérience dans lesquelles le chercheur s'est dédié totalement au rapport intense avec l'animal qu'elle va tester, mais elle va aussi le grandir. Donc c'est vraiment une relation, on peut dire, un peu trop familiale, si on veut. Et effectivement, elle n'était pas la première. Donc il y a l'extrait, ils disent qu'il y avait aussi Washo, c'était le premier, effectivement, un chimpanzé, qui a été élevé dans la même condition depuis qu'il était petit. Le chercheur lui a appris le langage des signes, comme Coco. Et effectivement, là aussi, la chose qui m'avait vraiment frappée avec quand j'ai lu les livres de Washo, c'était qu'il l'avait laissé dans la cuisine où il avait mis en hauteur des biscuits et il avait mis une caméra. Et quand ils sont sortis, Washo aussi, comme Coco, il est monté sur la cuisine pour aller prendre les biscuits et il faisait à soi-même les signes de dire « fais vite, fais vite, fais vite ». Donc ça veut dire comme Coco, il maîtrisait le langage des signes. Parce qu'une des critiques de ce type d'approche, c'était aussi que peut-être il utilisait les signes au hasard, c'était juste pour la récompense. Mais ces exemples-là montrent que quand même il avait une compréhension.
Une forme d'autonomie dans la pratique de ce langage des signes. Donc ça, ce chimpanzé Washo a été, on va dire, étudié par un couple de primatologues qui s'appelaient Allen et Beatrix Gardner, qui avaient suivi à peu près le même protocole d'apprentissage au quotidien de langage des signes. Il y a une distinction forte entre chimpanzé et gorilles. Vous qui étudiez les gorilles, peut-être qu'on peut parler aussi de la spécificité de cette espèce dans un cadre contrôlé, fermé, d'études. Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué ou de plus simple avec un gorille quand on essaie de lui apprendre le langage des signes?
Alors, les chimpanzés et les gorilles sont très différents au milieu naturel. Donc, quand on le retrouve dans des milieux fermés, il montre ses différences. Et le gorille, il est très connu pour n'être pas trop content ou trop participant aux expériences en milieu fermé parce qu'il n'est pas très motivé ou souvent les gens n'arrivent pas à le motiver assez facilement. Donc, c'est pas étonnant qu'au début, ils ont commencé avec un chimpanzé qui est une espèce beaucoup plus sociale et sociable. Donc, ils ont pris un petit bébé chimpanzé comme ils ont pris un petit gorille et donc le rapport avec l'homme a été beaucoup plus facile. Avec un gorille, c'est pas donné, mais c'est vrai qu'en prenant un petit bébé et Penny Patterson l'a élevé comme son fils, c'était intéressant que dans l'extrait, ils disent qu'elle n'avait pas d'enfant.
Elle a pas d'enfant, oui.
Parce qu'elle voulait justement marquer, dans les documentaires, ils voulaient marquer que c'était comme son enfant. Et donc, ce lien très fort avec l'individu, qu'aujourd'hui, peut-être, dans la science, on dirait que c'est un peu trop subjectif, mais ce n'est pas objectif. Dans la science, aujourd'hui, on essaye d'être objectif. Quand je suis dans la forêt à observer les gorilles, je ne dois pas jamais interagir avec eux, parce qu'il faut que jamais je modifie leur comportement ou qu'ils s'attachent à moi de façon particulière. Ce qu'on voit aussi chez Diane Fossey et Jane Goodall dans les milieux naturels, naturelle. Mm-hmm. Au début, ils lui donnaient à manger pour les approcher. C'était la primatologie a totalement évolué de façon un peu plus scientifique, on peut dire, par rapport au début. En fait, au début, les primatologues étaient de terrain aussi, étaient plutôt des observateurs. Ils n'avaient pas une approche systématique. Et c'est justement dans cette période-là des expériences de Coco, de Washoe, que la primatologie est devenue un peu plus scientifique. Mm-hmm. Et à partir du terrain, il y a une primatologue qui étudiait les babouins, très connue, Altman, Jean Altman, qui a pour première a dit que la primatologie pouvait être quantifiée de façon systématique et rigoureuse comme la science. Et de là, après, ça a ouvert les portes à une science qui est devenue de plus en plus systématique et scientifique avec Jane Goodall et Diane Fossey et jusqu'à aujourd'hui qui a évolué de façon encore plus rigoureuse.
Il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites, Shelley Massey, qu'on va bien sûr développer. Si on revient, alors on parlera bien sûr du rapport à l'animal en tant que chercheur, en tant qu'humain, comment est-ce qu'on se distingue de l'animal qu'on étudie finalement. Si on revient au temps de l'archive, c'est vrai que la primatologie dans les années 60-70 a connu une espèce de révolution copernicienne avec des figures comme Jane Goodall, que Natacha Trio avait reçue dans la science CQFD. On vous partagera bien sûr le lien sur la page de l'émission. Donc Jane Goodall qui étudie avec Louis Leakey, un paléontologue, les chimpanzés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, les questions qu'on se pose, elles sont pas forcément sur le comportement animal, mais pour comprendre les comportements des premiers humains. Donc là, finalement, on étudie les chimpanzés pour comprendre ce qu'auraient pu être nos ancêtres, peut-être hominidés, homininés, et ce sont des recherches finalement qui sont tournées vers l'humain. Avec Penny Patterson, j'ai l'impression que là, on entre dans une nouvelle ère, finalement, d'une certaine façon, de la primatologie, où on essaie de comprendre plus le comportement, les émotions, l'intelligence animale. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'était encore tourné vers les humains à cette époque?
Oui, parce que de toute façon, ce que Penny Patterson voulait voir avec le gorille, c'était les capacités que le gorille pouvait avoir qui étaient similaires à l'homme. Mmh. Donc, c'est toujours pour comprendre les origines, par exemple, de certains comportements chez l'homme. Et je pense qu'effectivement, tout le début de la primatologie était très focalisé sur l'aspect évolutif. Aujourd'hui, on le fait aussi, mais on se focalise aussi sur l'espèce, surtout pour la protéger, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de conservation des espèces. Les gorilles sont en danger critique d'extinction. Donc, il faut comprendre vraiment, une des axes de mes recherches, c'est de vraiment comprendre leurs besoins d'habitat écologique, nutritionnel, pour pouvoir mieux le préserver. Donc, effectivement, ce que vous dites, au début, on a beaucoup étudié surtout la socialité au milieu naturel et dans les expériences comme celle de Coco, surtout les capacités cognitives. Mm. Par exemple, Penny Patterson, étant vraiment à côté de ce gorille de Coco, l'a pu stimuler, si on veut, à avoir des comportements qui sont un peu plus similaires à l'homme. Par exemple, dans le documentaire, il montre que Coco est le premier gorille qui arrive à se reconnaître au miroir. Le test du miroir, c'est quelque chose qu'on utilise en primatologie pour voir si l'espèce qu'on teste... A conscience d'elle-même. Ouais. C'est pas seulement en primatologie, c'est partout pour tous les animaux. Et effectivement, dans d'autres zoos, ils ont essayé la même chose, mais ce rapport particulier avec le chercheur, il n'y avait pas. Et donc, le gorille, il semble qu'il ne se reconnaissait pas. Mmh. Après, probablement, le fait qu'elle avait une relation si étroite avec cet individu-là a permis, d'un côté, de mieux comprendre les potentialités de cette espèce, donc la potentialité de la conscience de soi-même, par exemple, aussi, des émotions, comme vous l'avez dit, comme par exemple aussi la conscience de la mort.
Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est assez troublant. Alors, dans le documentaire, on ne voit pas ça, mais c'est une vidéo qu'on peut voir sur Internet. Mmh. Coco avait adopté un chat qu'elle avait nommé elle-même All Ball, parce que c'était une boule, voilà, une petite balle pour elle. Une petite balle de poil. Ce chat s'est fait faucher par une voiture. Et Penny Patterson apprend la mort de All Ball à Coco, et Coco signe, dans le langage des signes, signifie, elle dit c'est mal, ça me fait mal, je suis triste. Et c'est bouleversant, en fait, ce genre de moment, parce que justement, on est à une espèce de frontière, où on perçoit de façon évidente la capacité émotionnelle d'un animal comme un gorille. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut mettre au crédit de Penny Patterson dans ses travaux, c'est que ça a été très critiqué, ce côté très fusionnel avec l'animal, etc. Mais il y a quand même dans ses travaux des choses qui ont été mises en évidence de façon indiscutable quasiment.
Oui, je suis d'accord qu'effectivement, pour l'époque, c'était une des premières démonstrations que les grands singes, les gorilles, avaient des émotions, avaient des capacités cognitives très, très complexes. C'est vrai qu'elle a été très critiquée, surtout du fait que il y a eu peu de publications scientifiques produites sur la base de beaucoup de données. Et aussi, quand on dit, bon, elle disait qu'elle pleurait, mais c'est toujours elle qui le testait. Et donc, c'est, bon, l'interprétation déjà pouvait être un peu...
sujette à discussion.
Exactement. Ouais. Ou sinon, l'autre chose qui a été critiquée, c'était, je pense que vous connaissez l'exemple du cheval qui savait compter.
Oui. Alors donc, ça, c'est une expérience de la fin du 19e siècle. Oui. C'était un cheval élevé par un Allemand, un chercheur allemand, qui lui avait appris une espèce de proto-alphabet où le cheval devait taper du sabot plusieurs fois sur le sol et on disait mais ce cheval sait faire des phrases. Je vous laisse continuer.
Oui, mais en réalité après il y a un autre chercheur qui a découvert que c'était pas le cheval qui savait compter, mais c'était le cheval qui savait lire les petits signes de visage de son
de la personne en face de laquelle il se trouvait, ouais.
Exactement. Qui pouvait, et donc comme ça, il semblait qu'il comptait, mais en réalité, il répondait juste aux signes.
À une attitude.
À une attitude. Donc, c'est quelque chose qui a été critiqué, qui peut-être s'est passé aussi entre Patty Patterson et Coco. Mmh. Mais je trouve que c'est pas tout à critiquer. Mmh. Et comme vous l'avez dit, pour l'époque, a commencé à montrer que ces animaux ont vraiment des émotions et sont des animaux qui sont très intelligents.
Mmh. C'est vrai que cette expérience-là, elle est entourée chez Limacy d'une forme de scepticisme chez certains qui disent mais finalement c'est plus du conditionnement et il y a une forme d'entraînement du gorille à répondre à des signes, mais le gorille lui-même ne signe pas de son plein gré, donc de toute façon c'est pas une expérience très probante. Ce qu'il y a quand même à dire, c'est que ce sont des travaux d'une certaine façon pionniers. Il y a eu une postérité à ces travaux, il y a eu d'autres expériences qui ont repris à peu près les mêmes protocoles avec des bonobos, par exemple je pense au bonobo Kanzi. Est-ce que vous pourriez nous en parler, nous expliquer la parenté entre ces deux travaux et ce que ça a pu confirmer dans ce qu'on pensait de l'intelligence des grands singes?
Oui, justement, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on peut critiquer Penny Patterson pour ça, mais des travaux qui ont été faits juste après, sur le bonobo Kanzi, montrent que quand même, lui, il maîtrisait 3000 mots, il comprenait 3000 mots d'anglais parlé, comme Penny Patterson disait que Coco comprenait à peu près 2000 mots quand elle parlait. Et par exemple, ça, c'était une évolution déjà par rapport à Washoe, auxquels ils lui ont pas montré l'anglais parlé. Ils communiquaient avec Washoe seulement avec le langage des signes. Donc Penny Patterson a évolué ça en parlant aussi l'anglais parlé ensemble aux signes. Elle a pu voir que Coco comprenait 1000 signes et 2000 mots anglais, anglophones. Et Kanzi, il comprenait 3000 mots. Et en plus, ils l'ont utilisé pour être plus scientifique, pas le langage des signes, mais un clavier dans lequel il pouvait donc écrire. Et il semble qu'il pouvait lire, il pouvait lire à peu près 500 signes sur le clavier. Donc ça montre quand même qu'il maîtrise les signes et il pouvait parler. Et en plus, ils ont fait beaucoup d'expériences. Par exemple, une expérience qui m'a beaucoup frappée, c'était d'avoir Kanzi dans une chambre. Et ils ont lui donné le yaourt. Et donc, il a fait une vocalisation que sa sœur, qui était dans une autre chambre, a entendue. Et elle a pointé sur le clavier tout de suite le mot yaourt. Donc, ça veut dire que cette vocalisation avait vraiment un significat yaourt qu'elle a pu comprendre sans le voir. Et il y a beaucoup d'expériences comme ça sur Kanzi qui sont beaucoup plus scientifiques et systématiques, qui peut nous montrer que quand même ces capacités que Penny Patterson disait que Coco avait à la fin pouvaient être réelles.
France Culture, Science Chrono, Antoine Beauchamp.
L'émission file, elle s'appelle Patience Chrono pour rien chez Limassi. On continue cette discussion autour de ces travaux en primatologie qui mettent en évidence l'intelligence, les émotions, les capacités cognitives des grands singes. Coco, elle est un peu comme un témoin de cette histoire de la primatologie. Elle est morte en 2018 et j'aimerais finalement comprendre comment la discipline s'est installée, s'est construite autour de ce genre d'expérience. Et aujourd'hui, finalement, quels sont, selon vous, les points communs entre vos interrogations à vous, chez Limassi, qui étudiait en 2023 les gorilles en Centrafrique, en République du Congo, et Penny Patterson? Et quels sont les ponts qui se lient et se tressent et se nouent entre votre approche et cette approche-là?
Je vais vous répondre à ça, mais je voulais juste rajouter que j'avais oublié que la chose intéressante aussi de Kenzie, c'est qu'il a appris le langage des signes en regardant des vidéos de Coco qui signait.
Ah oui, donc ça, il y a une vraie parenté, ouais.
C'est incroyable. Pour
alors en plus, ça. C'est pas la même espèce, et
c'est
en plus,
exactement.
Une autre espèce de singe apprend un langage qui n'est pas son langage naturel à un autre singe. C'est incroyable.
C'est incroyable, oui. Et donc, pour la relation entre. Aujourd'hui, on se pose encore ces questions-là. On fait aussi encore beaucoup des expériences à milieu fermé aussi sur la question de l'intelligence, de la cognition et de l'intelligence des grands singes. Mais les expériences sont menées de façon un peu plus scientifique et systématique. Donc, il n'y a pas cette relation étroite entre les chercheurs qui sera extérieure.
Qui vont être dans une fusion avec l'animal, finalement, affective, quoi. Et qui est une vraie projection, une humanisation progressive de l'animal par cette proximité.
Exactement. Et qui peut aussi influencer le résultat de. Parce que si on entraîne trop ces animaux, après, ils arrivent à le faire. Mais on veut voir si spontanément, parce qu'on veut comprendre les capacités, mais aussi l'origine de ce comportement. Donc, il faut le laisser de la spontanéité. Et donc, par exemple, je vous fais un exemple toujours sur Kenzie. Il y a eu une étude très systématique dans laquelle il lui avait donné des pierres pour voir s'il arrivait à produire des éclats. Et donc, avec l'entraînement, il est arrivé à produire ces éclats. Récemment,
donc, il aurait eu des capacités qu'ont eu les premiers hommes à casser des cailloux et à faire des bouts de silex, des outils.
Exactement. Et l'utiliser, parce que probablement ils l'ont lui montré, l'utiliser pour couper de la nourriture ou pour couper une corde. C'était une corde pour arriver à avoir de la nourriture. Récemment, un primatologue a essayé de faire la même chose avec des chimpanzés naïfs, donc qui n'étaient pas entraînés, on dit en anglais, enculturated. Et donc, de façon beaucoup plus systématique, il a pu montrer qu'en fait, les chimpanzés ne le font pas spontanément. Donc, il a totalement critiqué ça. De l'autre côté, aujourd'hui, on a aussi les recherches de terrain. Donc, moi, je me pose beaucoup de les mêmes questions que s'est posé Penny Patterson sous les gorilles, mais au milieu naturel. Et souvent, c'est aussi grâce au fait que je fais des observations qui sont particulières et donc je veux les analyser. Par exemple, par rapport aux éclats et l'utilisation des pierres, j'ai vu le gorille en République du Congo qui utilisait deux morceaux de termitière qui essayait avec le même geste ancestral de nos ancêtres, il les utilisait comme des pierres pour produire des éclats. La raison pour laquelle il le faisait, c'était pas pour produire des éclats, mais pour casser les termitières. Mais ça nous montre qu'au milieu naturel, ça montre encore plus que les capacités motrices et morphofonctionnelles et cognitives sont là et qui, probablement, à un certain moment, ont été utiles à nos ancêtres communs pour accéder à la nourriture.
Ça, c'est très intéressant de bien faire la distinction aussi entre milieu naturel et milieu fermé. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Les questions qu'on pose aux études ne sont absolument pas les mêmes. On va arriver bientôt à la fin de cette émission. Chez Limassi, peut-être on peut dire que s'il y a des limites aussi dans notre compréhension des capacités cognitives des animaux, c'est que finalement l'humain est toujours utilisé comme référence et qu'on va poser des questions à ces grands singes qui nous concernent nous, les questions de langage, les questions de comportement, finalement ce sera toujours nous le référent.
Oui, exactement. Moi j'étudie aussi la communication chez les gorilles et souvent après des années passées avec eux, je me pose encore la question à quoi ça sert cette vocalisation, pourquoi aujourd'hui la fait différente qu'hier, et c'est très difficile pour nous de se mettre dans leur tête. On peut essayer, mais on n'arrivera jamais à le comprendre 100%. Et encore plus, les expériences en milieu fermé, en zoo, souvent, pour les faire, on pense à des protocoles en partant de ce qu'on est capable de concevoir, à partir de notre esprit. Et souvent, moi, je pense que eux, s'ils ont beaucoup de caractéristiques similaires à nous, ils ont aussi une autre façon de penser. Et donc, une fois qu'on le met en face d'un problème à résoudre, penser avec la mentalité humaine, ça ne, et il n'arrive pas à le faire, c'est simplement parce que nous, on n'est pas arrivé à se mettre dans leur tête pour lui poser la bonne question, plutôt qu'ils n'ont pas les capacités pour le faire. Donc, je pense que souvent, ils ont les capacités, mais on n'arrive pas à le comprendre.
C'est ce qui fait chez Limassi que vous vous posez souvent la question de ce que pensent les gorilles, et cette question, heureusement ou malheureusement, peut-être heureusement, elle restera toujours un peu mystérieuse. Je vous remercie en tout cas chaleureusement, Chali Massi, de nous avoir guidés sur cette piste sinueuse des grands singes, de leur intelligence, de leurs émotions et de la communication. Vous partez bientôt à la rencontre des gorilles.
Ce printemps.
Eh bien, on vous souhaite bon voyage. Je vous conseille, à vous qui nous écoutez, de voir ce très beau documentaire « Coco, le gorille qui parle » de Barbet Schroeder. Je vous souhaite un joyeux vertige métaphysique à son visionnage. Vous ne regrettez pas le voyage. When the Gorilla Get Grip par The Gene Dudley Group, pour conclure en musique ce deuxième épisode de Science Chrono. Cette émission n'existerait pas sans l'aide de Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Mariam Ibrahim et à la réalisation Olivier Bétard. À la technique, aujourd'hui, c'était Élise Leu. Vous pouvez, comme toujours, écouter nos émissions sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.